Et nous allons ensemble faire la lecture de l'Évangile selon Luc au chapitre 7. Vous avez certainement lu cette histoire plusieurs fois déjà. Elle est bien connue, mais on trouve toujours du goût à manger du pain que l'on connaît. Nous connaissons bien le pain, mais à chaque fois, c'est un plaisir. Eh bien, il en est de même de la parole de Dieu. Je lis avec vous Évangile selon Luc, chapitre 7, verset 11. Je lis. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn, ou Naïm aussi. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole de Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour, et même jusqu'à Rennes aujourd'hui. Amen. Dans la Bible, ce n'est pas nouveau qu'une femme veuve n'ait qu'un fils et perde son fils. Tragique. Deux fois déjà dans l'Ancien Testament, il a été question de femmes qui avait un fils qui est décédé et que le Seigneur a ressuscité avec le prophète Élie et le prophète Élisée. Dites donc, on aurait besoin de revoir ces grands miracles d'enfants. Pas forcément des enfants qui sont décédés, mais des enfants qui ne sont plus dans la vie, qui sont partis. Je pense au fils prodigue qui a quitté père et mère et son frère pour aller dans les sentiers de la mort, sentiers de la débauche, de la drogue. On aurait besoin de voir ce miracle du retour à la vie au milieu de nous. Le père ne se trompe pas, le père du fils prodigue qui accueille son enfant. Il dit « Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie ». Besoin de résurrection. Mais aussi, on a besoin de revoir ces consolations sur des mamans, sur des grands-mères, des grands-pères qui pleurent. On a besoin de revivre ce temps de visitation. Dieu a visité son peuple, oui. Besoin de vivre une visitation. Alors Jésus, dans cette histoire, il revient de Capernaum, où là, il a guéri un serviteur, je dirais plutôt un esclave, un jeune esclave qui était sur le point de mourir. Jésus est toujours confronté à des cas de détresse que lui seul peut résoudre, les détresses de la mort. Il revient de Capernaum où il a relevé un jeune esclave qui était presque mort et il l'a ramené à la vie. Et le voici à Naïm, Naïm, qui signifie en hébreu la belle, la charmante, les délices, c'est beau, ça fait tout printemps. Mais au milieu des joies et des charmes de la vie, le cœur peut être triste. Dans le livre des Proverbes, il est dit dans la Bible, au milieu du rire, le cœur peut être triste. Comme quoi on peut avoir double visage, une apparence et une réalité tout à fait différentes. Alors il rentre dans la ville et une grande foule est avec Jésus. Je ne pense pas que les gens riaient autour de Jésus, je n'imagine pas ça comme ça. Je pense qu'ils étaient heureux de voir et d'entendre Jésus. Mais en face de la foule qui va avec Jésus, il y a une autre foule, derrière une femme qui pleure, une femme en larmes, deux mondes. Le monde de la joie, le monde de la tristesse. Et à côté de cette femme qui pleure, il y a un cercueil. À l'époque, c'était une planche de bois. Un cercueil sur lequel était couché un jeune homme. Certainement que ce jeune homme était décédé le matin même, parce qu'en Israël, on enterrait les morts le jour même. Et certainement qu'il n'y avait pas très longtemps qu'il était décédé. Mais la femme est en larmes. Comprenez cette femme veuve, elle vient de perdre son mari, probablement jeune encore. Et voici que maintenant, le soutien de sa vie, son unique fils, s'en va. Il meurt. Il y a des personnes qui accumulent chagrin sur chagrin. Comme disait le Seigneur, le torrent de la mort s'est jeté contre cette maison, s'est jeté contre cette femme. Mais voici, en face de ce cortège de larmes, voici le prince de la vie, Jésus. Il ne fait pas d'esbrouf, hein, mais il parle. Et sa parole peut changer tout le cours de la vie. Jésus, face à la mort, pour la première fois, Jésus est face à la mort. Il n'a encore jamais ramené quelqu'un de la mort, jamais. Élisée et les prophètes Élie, oui, pas lui encore. Alors que va-t-il faire devant ce cortège funèbre devant lui? Lui qui vient de dire, il y a quelques heures, il venait de dire cette parole magnifique, « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » Que va-t-il faire? Parce que la réalité est tout autre. C'est une parole qui peut parfois même choquer, blesser. « Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. » La réalité qui dépasse tout, c'est celle-ci. On portait en terre, et les mots sont durs, on portait en terre un fils unique de sa mère, un mort, fils unique de sa mère. Des mots cruels, mais des mots vrais. On ne voudrait pas ces mots-là. On voudrait des mots un peu plus arrondis, un peu plus doux. C'est terrible ces mots. Un fils unique de sa mère. Alors, il y a beaucoup de monde autour de ce garçon couché sur son brancard. Il y a beaucoup de monde autour de la maman. Mais vous le savez bien, ça ne change rien. Ces gens qui sont là ne vont pas changer la situation. Mais ils sont là et ça tient la mère au-dessus du désespoir. C'est l'accompagnement du deuil. Bien sûr, notre présence ne change pas les choses, mais notre présence, elle tient les gens endeuillés encore dans un souffle de respiration. Elle tient la mère parce qu'elle est entourée. Et Jésus ne change pas de trottoir. Il y a des gens, quand ils voient les difficultés, ils changent de trottoir. Jésus reste face à ce cortège qui s'approche de lui. Beaucoup de gens évitent la maison du deuil. Parce qu'ils disent, qu'est-ce que je vais dire? Quand est-ce qu'il faut que je parle? Ou plutôt, quand faut-il que je ne parle pas? On évite la maison du deuil parce qu'on ne sait pas parler et on le sait, nos paroles sont très pauvres. Parfois, les silences sont mieux que les discours, surtout dans ces cas-là. Alors Jésus voit, il s'approche d'elle et il voit cette femme en larmes. Il la voit et il la regarde, plus d'attention. Je ne sais pas si la femme le voit. Quand on passe par un deuil, on a perdu son fils unique, je pense qu'on ne voit plus rien. Et je pense que nos yeux nous empêchent de voir des réalités. Certainement qu'elle ne voit plus. Elle ne fait que de pleurer, comme Marie de Magdala qui regardait dans ses larmes et qui disait que c'était le jardinier qui avait volé Jésus. Enfin, on ne voit pas bien, mais on ne juge pas. Alors, que va faire? Pourquoi Jésus est tout à coup ému de compassion devant cette femme? Il est bouleversé. Et le mot en grec, c'est « il a été pris aux entrailles ». Il a été bouleversé, violemment secoué à l'intérieur de lui, presque jusqu'aux sanglots. Pourquoi? Puisqu'il sait ce qu'est la mort. Puisqu'il sait qu'il y a le paradis. Puisqu'il sait ce qui se passe au-delà du voile, puisque les morts sont devant, et l'abîme sont devant le Seigneur de toute la terre. Alors, il sait où est ce jeune homme. Pourquoi est-il bouleversé à ce point, presque jusqu'aux larmes? Jésus ressent ce que nous ressentons. Jésus vit ce que nous vivons. Nos pensées sont dans son cœur, nos larmes sont dans son cœur. Il a une capacité d'entrer en communion avec nous au-delà de tout ce que nous imaginons. Et ça, c'est Dieu, Jésus, c'est Dieu. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, quand je vois Jésus dans le village de Naïm, eh bien là, je vois les sentiments de Dieu. Je vois comment est Dieu. Dieu n'est pas indifférent. Il n'est pas froid. Ce n'est pas un personnage lointain. Ce n'est pas un juge, un bourreau sans âme qui prend plaisir à nous voir pleurer. C'est un Dieu proche, familier, presque envie de dire familial. Un Dieu dans la famille, partage la naissance, partage les joies de l'école, des retours de l'école, puis les joies de la souffrance, et puis les tristesses de la souffrance. C'est un Dieu qui nous comprend, qui souffre avec nous, il souffre comme nous, il souffre pour nous. J'ai remarqué dans ce texte que Jésus, dans cette compassion, qui veut dire souffrance, il n'a pas compassion du jeune homme, de l'enfant. Il a compassion de la femme, de la mère, veuve. Parce que cette femme, elle va rester seule. C'est terrible ça. Sans défenseur. Autrefois, dans l'Ancien Testament, on demandait à Dieu des enfants et surtout des fils. Et même un proverbe qui dit « Heureux celui qui a des fils comme des flèches dans un carquois. » Parce qu'il arrivait parfois qu'on se trouvait mis au tribunal. À la porte de la ville, c'est là qu'était le tribunal. Et parfois, il y a des veuves qui étaient bien accusées, jugées, et qui perdaient leurs biens. Ils se retrouvaient au tribunal, et quand elles avaient un fils ou des fils, les fils disaient « Maman, on arrive !» On ne va pas te laisser toute seule. On ne va pas te laisser te faire chahuter par des propriétaires qui en veulent toujours plus. Mais quand on n'a plus de fils, je pense qu'on est sans défenseur. Alors, ce n'est pas seulement, voyez-vous, la parole du Christ qui compte. Ce n'est pas seulement le fait de tout ce qu'il dit. Et d'ailleurs, le serviteur qui avait été guéri, son maître disait « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Ce n'est pas seulement la parole de Jésus qui va compter, mais c'est aussi ses sentiments, c'est sa compassion. Pas seulement la parole libératrice, pas seulement la parole forte, mais il nous faut savoir que ce Dieu qui parle, c'est un Dieu proche, un Dieu qui aime, un Dieu qui guérit, un Dieu qui fait vivre. On a besoin de savoir, de connaître les sentiments de Dieu pour que dans le chahut de la vie, on ne soit pas désemparé, qu'on n'aille pas se jeter dans la gueule du lion, mais qu'on reste attentif au Seigneur. Il est pour nous comme un père. Dieu est pour moi un père, il est pour moi une mère. Et pour vous aussi. Alors, quand il approche de cette femme qu'il voit en larmes, eh bien, le Seigneur va lui dire d'abord, pas un discours. Je crois que dans ces moments-là, les discours font plus de blessures que de bien. Il va simplement lui dire des mots tout simples, comme il a l'habitude de faire, des mots, une petite goutte qui tombe et qui change tout, ne pleure pas. Il n'explique pas, hein. Ne pleure pas. Il ne dit pas, car ton fils ressuscitera. Mais quand il dit « ne pleure pas », il veut dire « ne désespère pas, ne te résigne pas, je suis avec toi dans la vallée de la mort, à l'ombre de la mort où tu es, je suis là, Mais quand il dit « ne pleure pas », il donne un ordre à son cœur. Là, c'est le Créateur qui parle. Ne pleure pas. Il ne dit pas « arrête de pleurer, tu nous embêtes ». C'est parfois ce qu'on dit aux gens qui ont perdu leur mari, parfois « arrête de pleurer, mais profite de la vie ». Ne pleure pas, cela signifie « reçois ma paix ». L'assurance que je suis là et que tu n'as rien à craindre, ne crains pas, crois seulement, a-t-il dit à un papa qui venait de perdre aussi sa fille unique aussi. Ne pleure pas. Ça calme, ça rassure, venant de Jésus. Et il s'approche et il touche le cercueil. Et là, il arrête les porteurs. Les quatre porteurs s'arrêtent. Et puis en même temps, il arrête la mère, évidemment, qui ne peut plus avancer sans son fils. Et puis il arrête toute la foule qui suivait. Et puis il arrête le mort. Et il arrête la mort en touchant. Il arrête le cours des événements. Il touche du doigt le cercueil. Il touche la réalité qui nous menace. Il en est le maître. Il est le maître de nos événements qui nous bousculent, qui nous terrasse. Mais, il y a un mais. À cette époque, quand on touchait un cercueil, quand on touchait un mort, on était impur. Comme si la mort était contagieuse. Elle n'est pas contagieuse. Et pourtant, malgré tout, elle se répand de famille en famille, d'hommes, de femmes et d'enfants. Elle se répand. Elle est comme contagieuse. Et celui qui touchait un mort, il n'était pas condamné. C'était simplement une image de la force de la mort. Il devenait comme touché par la mort, donc contagieux. Et Jésus aussi. Il touche la mort, mais il a fait plus que ça. Il a accepté de prendre notre mort sur lui. Il a accepté de prendre notre mal sur lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il a pris sur lui le désordre de nos consciences, de nos vies. Ce Dieu qui pleure avec nous, ce Dieu qui laisse la douleur s'imprégner en lui, qui laisse la mort, j'ai l'impression qu'il fait comme l'éponge qui prend. Il prend en lui tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous arrête. Jésus est sur le chemin de Naïm. Je vous rappelle que Naïm signifie les délices, la charmante, le bonheur, la belle. Mais il renonce à ce chemin de délices. Il a renoncé à son ciel magnifique qu'on ne connaît pas encore. Il a renoncé à tout pour venir chercher les malheureux que nous sommes, que nous étions. Il a voulu quitter ce chemin de Naïm pour aller rejoindre le cortège des malheureux et les ramener à la vie. Autant la maman que le fils, que tout le monde. Oh, voyez-vous, dans cette histoire de fils unique qui ressuscite, j'ai pensé au fils unique de Dieu qui ressuscite et c'est lui qui est présenté un peu à travers cette histoire, le fils unique de Dieu qui ressuscite comme l'enfant de Naïm. Mais je reviens à cet enfant. Vous avez pensé à lui. Le papa n'est pas là. Il est décédé. Il ne reste plus que ce jeune homme. C'est un jeune homme. Jeune homme, dit Jésus. Ce n'était pas un gamin de 3 ans. Ce jeune homme, fils unique, avec sa mère, ils doivent affronter la vie avec tout ce qu'elle a de terrifiant. Mais on peut penser que cette relation mère-fils a été certainement très fusionnelle, comprenez? Et que la maman, peut-être, elle devait étouffer son fils. On peut penser comme ça. Et que toute l'affectivité de la mère, elle s'est reportée sur l'enfant. Et l'enfant a pris la place du père. Et l'enfant était le responsable de la maison. Il avait un rôle qui n'était pas son rôle. Et c'est comme ça parfois, quand le papa n'est pas là. Et on pouvait penser que la maman, qui était certainement très bien, comme toutes les mères juives de cette époque, eh bien, elle empêchait son fils de vivre. Rentre pas trop tard, tu vas prendre froid, dépêche-toi. C'est comme ça. Mais Jésus, quand il parle à l'enfant, il ne dit pas « enfant », il dit « jeune homme ». Et il parle Jésus comme un père, il parle comme un père qui commande à ce jeune homme de se lever, le père qui manque. Dans un psaume 68, Dieu est le père des orphelins. Je pense que quand Jésus prend la parole, jeune homme, lève-toi, je pense que là, il prend la place du père qui dit, allez maintenant, tu vas te lever. Voyez-vous ? Comme le père qui voit son enfant au lit à 12:05, c'est pas normal. Enfant, lève-toi. Maintenant, tu vas prendre ta place. Tu vas te relever. Cette femme, voyez-vous, son drame, c'est bien ça. Elle n'a plus personne à qui transmettre, à qui donner. Elle est condamnée à vivre que pour elle-même, sans pouvoir rien attendre d'autre que sa mort à elle. Situation difficile. Il faut aller au-delà du texte, et je pense que ce que je vous dis là, ce n'est pas faux, je pense. Je crois que c'est tout à fait logique et c'est naturel. Alors je reviens à cette femme, parce que c'est elle qui est surtout au centre de l'histoire et non pas le jeune homme. Cette femme, elle n'a aucun mérite. La veuve de l'Ancien Testament, la veuve de Sarepta, elle reçoit le prophète Élie, elle le nourrit, elle le loge, elle le protège, elle le gâte, elle fait plein de choses pour lui. Et quand son enfant va mourir, Élie sera là. Cette femme, elle n'a rien fait de spécial. Il n'est même pas dit qu'elle avait la foi. Elle ne demande rien. Elle ne prie pas. Elle n'attend rien. Jésus ne lui dit pas, « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Pas du tout. Cette femme, elle n'a rien demandé. Ici, la résurrection, c'est l'initiative de Jésus seulement. C'est lui qui a décidé, sans aucune demande, sans aucun mérite, il a décidé de redonner la vie à cet enfant. Ça me parle. Cela me dit, le Seigneur fait au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous demandons. Et ce n'est pas parce que j'ai demandé que je suis mieux que d'autres. Ce n'est pas parce que j'ai mérité. Simplement, Dieu veut nous faire grâce. Il veut nous dire, venez à moi, je vous donnerai du repos pour vos âmes. Ici, c'est une page, c'est une vérité de l'Évangile très précieuse pour les chrétiens. Dieu sauve par grâce. On ne le paye pas, on ne le charme pas, on ne l'influence pas. Il décide, il agit de nous sauver, pour nous sauver. Jeune homme, je te le dis, en pleine foule, en pleine rue, à la porte de Naïn, à côté du cimetière. Je te le dis, lève-toi. Je te le dis. Parole personnelle pour lui. Chaque parole de Dieu est personnelle pour vous. Ce que Dieu a dit aux apôtres, il vous le dit. Ce que Dieu a dit avec les personnages qui croisent sa route dans les évangiles, il nous le dit. Jeune fille, lève-toi. Jeune homme, lève-toi. Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Ne pleure pas, ne crains pas, crois seulement. Ces paroles, elles sont personnelles pour chacun de nous. C'est à nous que Jésus parle. C'est une parole qu'il faut écouter. Il faut laisser la parole remuer dans notre cœur. Il faut se laisser redresser, relever, lève-toi. Pour dire le mot « résurrection », autrefois, on disait le verbe « lever » ou « réveiller ».« Lève-toi », autrement dit, « je te ressuscite ». Mais c'est pas « lève-toi », c'est pas le jeune homme qui va se lever, c'est Jésus qui va le tenir. C'est comme s'il disait « sois levé, sois vivant, sois heureux, sois sauvé ». sois consolé. Nous, on ne sait pas se consoler. On ne sait pas se relever. On ne sait pas vivre. C'est lui qui nous fait vivre. Dieu est à l'œuvre en chacun de nous depuis le début. Et le jeune homme se redresse, assis sur son brancard, désarticulant peut-être les porteurs. Et il se met à parler, à parler, à parler. Signe qu'il est bien vivant. La parole est un signe de vie, un signe de relation. En parlant, il s'ouvre aux autres, il est conscient. Ainsi est notre vie. Quand le Christ touche notre cœur, il nous fait aussi nous ouvrir aux autres. Il nous met en contact avec les autres, en contact avec la vie. Il renoue ce qui s'est déchiré. Qu'a-t-il dit le jeune homme, assis sur son brancard, sur son cercueil? Qu'a-t-il dit? Peut-être qu'il a dit simplement, « Qui es-tu, Seigneur ?» Il ne le connaît pas. « Qui es-tu, Seigneur ?» Il a peut-être dit aussi, « Maman, je suis heureux de te revoir. » Vous voyez tout ce qu'il peut dire. Mais il s'est mis à parler. Et Jésus l'a rendu à sa mère. Il l'a rendu à sa mère. Il n'était plus à sa mère. Sa mère n'avait plus aucun pouvoir sur lui, aucune force. C'était l'enfant qui était parti dans le royaume de Dieu. Il l'a rendu à sa mère. Alors, que vous dirais-je pour conclure? Je pense que nous sommes la mère en pleurs, chacun de nous. Je pense que souvent, des choses nous échappent, des enfants nous échappent, la situation est incontrôlée, incontrôlable, et nous pleurons sur nous-mêmes, sur tout ce qu'on ne peut pas faire. Et Jésus nous dit, ne pleure pas, fais-moi confiance, je prends ta vie en main. La mère, c'est moi, c'est vous. Il y a sûrement des femmes qui ont pleuré ici. Et puis le Fils, c'est nous, c'est chacun de nous. Chacun de nous, nous attendons une parole de Dieu pour vivre, lève-toi. On attend un secours simple, mais efficace. Oui, aujourd'hui, tous, la mère, le fils, vous et moi, nous sommes en travaux de résurrection. Dieu est en train de nous ressusciter, de nous transformer, de nous conduire par ces cordages étonnants, magnifiques, nous conduit vers une autre vie qui sera là et qui sera là-haut. Jésus est venu pour ressusciter les morts et les vivants. Pas seulement les juger, mais aussi les ressusciter. Et je pense qu'à Naïn, ce jour-là, il y a eu deux résurrections. La résurrection de ce jeune homme est suivie juste après, à la seconde même, par la résurrection de la maman. Parce qu'elle est ressuscitée, la mère. Ses larmes se sont séchées, ses chagrins sont disparus, son angoisse et sa tristesse sont parties. Elle est ressuscitée. La présence de Jésus change le cours des événements et de la vie. Je peux ressusciter à la vie aujourd'hui avec le Christ. Je peux être sauvé aujourd'hui si je laisse Jésus s'approcher de moi. Et si je le laisse me toucher le cœur. Et si je le laisse me parler. Et si je l'écoute. Je peux ressusciter, je peux être sauvé. C'est quelque chose de sérieux, c'est la chose la plus grande, la plus grave, la plus importante au monde, appartenir à Jésus-Christ. Je vous souhaite toute la bénédiction de Dieu sur vous. Amen. Nous prions. Seigneur, fais-nous sortir de notre chagrin et de nos questions, de tout ce que nous avons peut-être cassé dans le passé. Fais-nous sortir et nous ramène-nous dans ta vie, dans ce bonheur de dire « Le Seigneur est mon aide, que peuvent me faire les hommes ?» Fais-nous revenir à toi et nous reviendrons. Ouvre nos yeux et nous verrons la splendeur du Christ qui touche les morts et qui les fait vivre. Et nous sommes quelque part au fond de nous, nous aussi, en situation de mort. Et tu es là, et tu vis avec nous. Seigneur, tu es magnifique, merveilleux. Sans toi, nous n'aurions aucun espoir. La maman aurait enterré son fils. Sans toi, notre vie n'aurait plus de suite. Mais tu es venu afin que tes enfants et tes brebis, comme tu nous appelles, aient la vie abondante, rayonnante. Merci pour ta présence auprès de chacun de nous cet après-midi. Amen.